Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnoche.
En vacances.
Je vais même parler de quasi-délai.
Radio X.
Il est 16h45. Merci de choisir le retour de Radio X avec Nick Cloutier, Mélanie Trudel, Louis Gauvin. En vacances jusqu'à vendredi, en fait, parce que dès lundi, le 10 août, c'est la programmation régulière de choix qui reprend avec les petits changements qu'on a eu durant l'été. Donc, je serai à Good Morning Québec, ensuite dans l'équipe de Montréal Live. Pierre Couture et Frank, le dédomiseur, pour ce qui est de Couture dans le mythe jusqu'à midi. Wallet en direct, ça change pas. GC, Pat et Max sont là. Puis le retour de Radio X avec la même équipe. DH, Mel, Louis, Jordan. Et ensuite, le Carbo Show qui revient. Et,
ça, c'est le une Space bonne question, Cast. Le Carbo Show.
Écoute, moi, j'y vais avec la programmation que je
le Carbo Show revient. Ça, c'est sûr, c'est confirmé. Ouais. La question, c'est avec qui Carbo
oui,
sera?
Oui, c'est ça.
Carbo?
On sait pas.
Carbo sera avec quelqu'un.
Mel, peut-être?
Peut-être.
Non, on le sait pas. C'est la question.
À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là ici à Radio X, ça fait sursauter beaucoup de monde. J'entendais Jordan dans le retour en parler. J'entendais Gary tantôt et même Jean-Francis sur l'heure du midi dire « Ah, moi, la vasectomie, je pensais le faire. Finalement, j'ai reculé, j'ai reviré de bord. » Moi, je l'ai fait. Il y a une couple d'années déjà, je pense en 2021. Ça a très, très bien été. Puis on va en parler. On va parler de ça, de dysfonction érectile. Bref, d'un paquet de petits problèmes que les gars peuvent avoir puis dont on ne parle pas nécessairement autour de la bière à cage au sport, là. Avec le docteur Louis-Olivier Gagnon. Bonjour, docteur. Merci d'être là avec nous.
Salut, Nick. Merci de l'invitation.
Ben avec plaisir. On s'était déjà croisés dans un show qui s'appelle La Sexploratrice.
Exact.
Oui, il y a quoi, 2 ans peut-être?
Oui, La Sexploratrice qui est souvent sur TikTok live. Et j'ai décidé, pour la venue de docteur Gagnon, de partir un live TikTok, justement, si vous voulez voir en images, parce qu'il aura des trucs à nous présenter. Oui. Mais on va bien l'expliquer quand même à la radio. Là.
Exact.
Mais on a un pénis et des ciseaux. Là, ici
oui, oui, studio. Oui. Ouais. Bon, t'as déjà dit le punch.
Non. Ciseaux. Et pénis, il y a beaucoup de monde qui sont dans la voiture en ce moment qui font non. Mais oui, ça marche dans le même. Vasectomie, c'est pas si pire que ça, docteur Gagnon. Là.
Non, c'est pas si pire que ça. C'est ça, c'est une technique qui prend peut-être 10 à 15 minutes en tant que telle. On a des avancées là, au niveau des techniques. Là. On fait la technique sans scalpel.
Là. Ouais, moi, c'est ça que j'ai eu. Là,
donc,
puis...
une technique inventée dans les années 70, là, au moment où il y avait des règles là, qui étaient faites en Chine pour le contrôle de la population. Donc,
c'est là que ça a commencé, cette
nouvelle technique-là, ouais. Parce que dans le fond, avant, la vasectomie, c'était fait avec un bistouri, on faisait un petit trou au niveau de la peau, puis on allait chercher les canaux, on utilisait encore le bistouri pour le disséquer, qu'on appelle, là, enlever les petites couches là, du canal. C'est ça. Mais il y a des améliorations qui ont été faites par un docteur là, qui vient de la Chine, le docteur Li Xingquan, qui a publié un article en 1974 là, sur une nouvelle technique pour rendre ça plus rapide puis avec moins de complications. Parce que là, avec les nouvelles règles de contrôle de la population en Chine, donc là, la vasectomie, il y a eu comme des campagnes de vasectomie. Ouais. Il fallait rendre ça plus efficace, plus rapide, moins de complications. Donc, il s'est penché là-dessus puis il a développé la technique sans scalpel. Donc, on a la démonstration ici, effectivement, avec le pénis dont Mel a parlé tantôt.
Oui.
Je sais que les infirmières en clinique l'apprécient.
Là, on
aussi.
Va oui. se dire les vraies affaires. Ça, c'est un pénis qui est de grosseur moyenne.
Oui, 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 moyenne.
Donc, on parle d'à peu près quoi, 5 pouces?
Habituellement, là, c'est la longueur là, étirée qu'on va aller mesurer. Là, puis habituellement, il faut que ça soit 13 cm. Lui, probablement, qui est en dessous de ça. Là.
La moyenne, mais, OK.
C'est une démonstration. Là. C'est, ouais. Non, c'est pas ça. De voir la longueur. Là.
Mais non, ça, les gars, tu sais, la longueur,
non,
puis la moyenne. Puis
ça,
le...
Mais
c'est bon, pour l'estime quand tu dis que ça, c'est la moyenne.
Je n'allais pas mesurer celle-là.
Ça peut être la moyenne.
Oui, il y a des gens sur TikTok, mais il y a des gens dans la voiture. Juste pour vous donner une idée, là, ça doit mesurer quoi, 3 ou 4 pouces.
Oui, non, c'est ça. Lui, il est probablement en dessous de la moyenne. Ouais, étiré, ouais. Il doit être en dessous de 13 cm. Oui,
5.
Je pense qu'il est un petit peu en dessous de la moyenne, malheureusement, notre démonstrateur.
Parce que là, juste pour expliquer le processus, c'est pour l'avoir vécu, moi, cette technique-là, là, on m'a gelé, la piqûre... une certaine douleur. C'est comme chez le dentiste, à peu près. Là.
C'est sûr qu'on va geler avant. Ben, ouais. Juste pour dire, le patient arrive, il est couché sur le dos. On va aller gelé à l'endroit où on fait l'incision. L'incision est au milieu, là. Je vais le montrer pour les gens là, qui écoutent en live. Là. Fait que, on fait ça au milieu. Là, sur... Il y a une ligne un petit peu plus foncée au niveau du scrotum. Là. On appelle ça le raphé médian. Ben, fait que c'est une petite incision qu'on fait, ben, on dit sans scalpel. Là. Fait que c'est avec la pince qu'on voit ici, que nous, on appelle la pince chinoise en l'honneur là, du médecin, là, le Dr. Li Xingquan.
C'est un mini-ciseau.
Donc, mais c'est très, très pointu. C'est ça la particularité. Donc, c'est une pince très, très pointue. Puis on va aller la mettre à l'endroit où on fait l'incision qui est sur la ligne là, au niveau du scrotum. On a gelé avant, évidemment. Puis là, on va aller ouvrir la pince. Fait que c'est en ouvrant la pince comme ça que ça va créer une ouverture.
C'est pour ça que le médecin m'expliquait qu'il m'a opéré. Il disait, ça va être comme une déchirure.
Exactement.
Moi, j'ai jamais senti, Mélanie, elle a fait une grimace. Moi, pour vrai, Dr Gagnon, là, il m'a parlé, le médecin, tout le long, là, après m'avoir gelé, j'ai jamais rien senti. Je me suis jamais rendu compte qu'il était en train de faire l'opération pendant qu'il me parlait, assez que je me disais, mais maintenant, il va commencer. Là.
Mais ça, t'as quand même été chanceux parce que ça arrive des fois que les gens ils peuvent sentir.
Okay.
Surtout que quand on va tirer sur le canal ou sur le testicule, des fois, même si on a gelé, des fois, les gens vont le ressentir dans le ventre parce que le canal déférent, le canal famille, il va derrière la vessie aussi. Fait que même si on va geler là, au niveau du canal, de la plaie, des fois, les gens peuvent avoir une certaine sensibilité. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gars qui ont des histoires racontées à leurs collègues et tout ça là, par rapport à la vasectomie. Donc, une fois qu'on fait l'ouverture avec la pince, avec la technique sans scalpel, on va identifier le canal. On commence, exemple, avec le côté gauche parce qu'il y en a deux. Hein?
Ouais.
Il y en a un par testicule. On va trouver le canal. Après ça, on va l'identifier. On va aller le disséquer, donc enlever certaines couches. C'est un petit peu comme les couches d'un oignon. Faut enlever les couches. Avec la pince à nouveau.
Il est installé vraiment comme nous.
Couché sur le dos. Il est couché sur le dos, là. Couché sur le dos.
Ah, OK. Vous n'êtes pas écarté.
Pas besoin. Couché
sur le dos.
C'est ça, Après ça, une fois qu'on a identifié le canal, ben on va aller l'attacher de part et d'autre. On va aller le couper puis enlever une petite partie. On va aller le brûler. On va même aller les cacher. Fait qu'on prend plusieurs techniques pour essayer de faire en sorte que ça ne se reconnecte pas.
Oui, parce que je me rappelle qu'on avait discuté de ça. Puis vous disiez que la nature est bien faite. Des fois, les canaux cherchaient à se reconnecter eux-mêmes.
Exactement. Bien, premièrement, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Donc, le médecin se trompe ou coupe pas au bon endroit. Fait qu'il y a un taux d'échec d'à peu près 1 %. Là. C'est pour ça qu'il faut faire un spermogramme 3 mois après pour confirmer qu'il n'y a plus de spermatozoïdes. D'ailleurs, il faut faire plusieurs éjaculations là, avant le spermogramme.
35, comme on avait dit.
Oui, à peu près ça. Oui, c'est ça.
Donc, la blonde, elle les comptait une par une.
Donc, c'est ça.
C'est une blague.
Fait qu'il y a un risque d'échec, mais une fois que le spermogramme est à zéro, à 3 mois, des fois, il y a des risques de reconnexion. Donc, qu'on redevienne fertile. C'est quand même rare. On dit que c'est à peu près 1 sur 2000, mais c'est pas zéro. Puis c'est ça, c'est que la nature est drôlement faite. C'est que même si on va attacher, couper un morceau, brûler, même on va les cacher en mettant du fascia entre les deux extrémités, là, des fois, ça va avoir tendance à revenir ensemble. D'ailleurs, quand on fait des reconnexions après la vasectomie, donc l'opération pour redonner la fertilité, là, faire la reconnexion, c'est souvent pas très difficile d'aller trouver les canaux parce que les deux bouts sont quand même très proches. On aurait tendance à dire, quand on va faire la reconnexion, il faut aller trouver les deux côtés puis ils vont être séparés. Mais en fait, il y a toujours une cicatrice entre les deux. Fait que ça fait qu'on voit là, vraiment la cicatrice entre les deux extrémités. Donc, la nature est drôlement faite que ça a quand même tendance à vouloir demeurer proche, là, les deux extrémités.
Est-ce qu'il y a plus de reconnexion qu'avant? J'ai l'impression, là, avec les familles recomposées, même des gens que je connais qui, après 4 enfants, mettons, ont décidé de reconnecter puis d'avoir un 5e. C'est plus fréquent qu'avant?
Bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Faut savoir que la vasectomie, en général, c'est super fréquent. Hein? Donc, on en fait 13 000 par année au Québec. Il y a 1 homme sur 3 qui est vasectomisé au Québec. On est les champions du monde entier, là.
Ben, moi, je trouve ça une bonne affaire pour nos conjointes, entre autres, là.
Bien, c'est un excellent point parce qu'avant, c'était la ligature tubaire qui était plus souvent faite dans un ratio de 4 pour 1.
Compliqué, là.
Donc, dans les années 70, c'était 4 ligatures tubaires pour une vasectomie. Maintenant, c'est l'inverse. Puis ça va un petit peu avec l'émancipation des femmes là, versus d'autres endroits dans le monde. Parce que ailleurs dans le monde, c'est la ligature tubaire qui est encore la plus pratiquée, si on prend le reste du monde au complet. Nous autres, on est numéro 1 avec... Il y a la Corée du Sud, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande là, qui ont beaucoup des hauts taux de vasectomie aussi. Donc, juste pour dire que la vasectomie, c'est très fréquent au Québec. Puis effectivement, c'est mieux que la ligature tubaire, parce que la ligature tubaire, anesthésie générale... c'est une laparoscopie avec de la caméra. Donc, c'est beaucoup plus compliqué avec plus de risques. Pour répondre à ta question, ben c'est fréquent la vasectomie, mais c'est fréquent aussi les reconnexions. C'est à peu près 2 à 6 % des gens qui se font vasectomiser, qui vont changer d'idée. Donc, c'est à peu près 500 au Québec qu'on fait par année.
Même si avant la vasectomie, on pose des questions, là, puis on essaie de savoir, avez-vous des enfants? Avez-vous l'intention d'en avoir? On pose des questions justement pour, je sais pas, éviter ça, mais pour que la personne soit sûre de son choix, là.
C'est ça, mais ça arrive, puis c'est ça. Surprenamment, ça peut arriver quand même assez tôt. J'en ai fait un, je pense, ça fait 6 mois après la vasectomie, j'ai fait la reconnexion. Il y en a beaucoup que ça vient à l'intérieur de 5 ans. Puis, heureusement, c'est ce qui donne le meilleur taux de succès. Là, quand on fait la reconnexion plus rapidement après la vasectomie, en bas de 5 ans, il y a plus de chances que ça fonctionne que quand ça fait très longtemps. Mais c'est
imagine
ça.
Imagine que les gens payent pour la reconnexion. Là, parce que la vasectomie, on peut l'avoir, je pense, encore au public de façon gratuite, mais la reconnexion doit être payante, j'imagine.
Bien, les deux sont couverts techniquement par le public. C'est juste une question de disponibilité. Il y a des régions où c'est très difficile d'obtenir la vasectomie au public. T'sais, ça prend un médecin de famille ou c'est quand même plus rare que c'est les urologues qui font ça parce qu'ils sont tellement occupés que le cancer, les pierres aux reins. Souvent, c'est des médecins de famille qui font ça. Fait que c'est une question de liste d'attente. Ça peut être fait au privé aussi. C'est sûr que les reconnexions, c'est de moins en moins au public parce que ça, souvent, ça demande un bloc opératoire puis là, ils vont prioriser d'autres cas. Fait que ça va être plus au privé. C'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça, mais il faut balancer ça avec les coûts d'infertilité, là, de procréation assistée et compagnie qui peuvent être élevées aussi. C'est ça. L'avantage de la reconnexion par rapport à la procréation assistée, c'est que si ça fonctionne, bien, ça fonctionne pour un, ça peut fonctionner pour plusieurs. C'est une conception naturelle, tu sais, au lieu de faire ça en laboratoire puis insémination et compagnie.
Le taux de succès est bon?
Le taux de succès est bon pour les reconnexions. En bas de 5 ans, les chances là, d'avoir des spermatozoïdes là, sur le spermogramme après la reconnexion, c'est très élevé. Là, c'est aux alentours de 90%.
Oh, oui.
Au-dessus de 10 ans, là, ça va plus être aux alentours de 60-70%. Donc, c'est sûr que là, des fois, il y a plus de cicatrices.
L'âge rentre-tu en ligne de compte? Mettons, je dis pas à 50 ans, c'est moins...
Oui, mais c'est pas un gros facteur. Là. Ça va être quelques points de pourcentage. C'est vraiment le temps depuis la chirurgie parce que là, il peut y avoir plus de cicatrices là, des fois qui se forment. Puis c'est sûr que les testicules peuvent tomber plus en dormance aussi. Là.
J'ai vu dans les médias, il y a pas si longtemps, un jeune homme, là, début vingtaine, qui voulait se faire vasectomiser. Puis là, ça s'indiguait sur les réseaux. Voyons donc, t'es bien trop jeune. Si le gars en veut pas d'enfant, puis il sait, et pourquoi pas, tu sais, est-ce que ça vous est arrivé de refuser des candidats?
C'est sûr qu'avant, des fois, les gens, je sais qu'il y a des urologues qui ont déjà refusé là, des patients en bas de 25 ans, mais maintenant, tu sais, c'est la décision libre et éclairée. Fait que si on parle avec le patient qui est majeur, qui juge que lui, il a plus d'avantages que d'inconvénients de faire la vasectomie, on est mal placé, là, les médecins, pour prendre la décision pour lui. Fait qu'habituellement, là, à moins d'une situation exceptionnelle, là, au-dessus de 18 ans, là, quelqu'un là, qui est vraiment. On a documenté vraiment les risques, le fait que ça devrait être considéré comme permanent, non réversible. Faut prendre pour acquis que c'est pas réversible, même s'il y a l'option. Il y a quand même certains risques là, à la vasectomie, tu sais, des risques de saignement d'infection comme n'importe quelle opération, mais il y en a quand même 1 à 2% des gens, des fois, qui peuvent avoir des douleurs chroniques aussi au niveau du testicule. Donc, il y a quand même ça à prendre en considération. Fait que ça, tant que c'est expliqué au patient puis qu'il est au courant, on en a des patients qui viennent puis qui n'ont pas d'enfants puis qui veulent juste pas d'enfants pour différentes raisons, que ce soit l'environnement, certaines craintes face à l'humanité ou quoi
c'est
que ce soit.
Choix, là. Rendu là, là.
C'est leur choix, là, c'est ça. Ça arrive là, des fois. Puis,
on a des cas de vasectomie qui n'ont pas fonctionné là, malgré des spermogrammes négatifs.
Oh, oui.
Hey, c'est fou, hein?
Moi, en tout cas, quand je l'ai fait, le spermographe était négatif. On m'a dit 100% négatif. Mais ça peut s'être reconnecté, c'est ça l'affaire.
C'est ça, c'est quand même juste une chance sur 2000, là. Fait qu'il faudrait quand même. Ouais, c'est ça.
On les a ici sur 2000.
Prenez-vous à 649.
C'est sûr qu'il faudrait qu'ils vérifient pour être sûr qu'ils sont fertiles parce que ça peut amener à d'autres questions, hein.
Oui, c'est ça, exactement. Mais dans les deux cas, il semble y avoir une deuxième vasectomie. Fait que ça, c'était confus. Parce que j'ai écrit au.
Être sûr que c'est eux autres le père.
Ok, vous l'avez appelé plus tard. Oui, c'est ça. Imagine.
Ouais, mon Dieu, ça peut créer de drôles de discussions, en effet. Mais l'autre, pour terminer avec la vasectomie, souvent le mythe aussi, c'est « Ouais, mais là, après la vasectomie, il faut que je reste assis pendant une semaine, il faut que je mette de la glace. » Puis c'est quoi la règle?
Bien, habituellement, on dit là, qu'il n'y a pas d'activité physique. Là, la convalescence, là, on dit que c'est à peu près une semaine. Donc c'est ça. On parle d'une semaine qu'il ne faut pas faire d'efforts, pas d'activité physique. On peut mettre de la glace, ça peut aider, mais ça ne change probablement pas grand-chose. C'est plus Tylenol qu'on prend au besoin s'il y a de la douleur. C'est pas très, très douloureux en post-opératoire. C'est vraiment plus sur le coup que des fois, ça peut être tannant quand on va piquer.
Quand ça dégèle un peu.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas si pire que ça. Là.
Moi, j'ai pas écouté. j'ai pas eu mal, j'ai pas mis de glace, puis presque
l'après.
Le même après, parce que moi, c'était arrivé le matin, à 11h, puis à 16h, je faisais du jogging.
Ah là, t'es pas un bon patient, là.
Il va-tu m'arriver quelque chose de grave?
Bien, c'est que ça peut saigner. Des fois, ça peut faire des hématomes. C'est, le poing peut lâcher. C'est pas dramatique, là, mais avoir un hématome au niveau du scrotum, ça peut être tannant. Là, ça peut gonfler assez facilement.
En tout cas, j'ai pas eu ça. Fait que là, dans le long terme, je...
Ah, t'es un dur à cuire, Nick.
Il m'arrive. C'était pas ça le point. J'avais pas mal. Puis, pourquoi? Pourquoi faut pas que je bouge là? J'avais une routine, puis je voulais en tout cas, bref.
Mais c'est vrai que des fois, les patients, ils se disent, ça va bien, j'ai pas de douleur, tout est beau, pourquoi suivre les consignes? Mais là, c'est là que ça arrive des problèmes. Exemple, mettons, pour les circoncisions, on dit que c'est 2 semaines pas d'activité physique. Mais j'ai un patient que lui, un fan d'entraînement, il s'est dit « Ah, ben je vais juste faire mes épaules, c'est pas si pire que ça. » Mais en faisant les épaules, on force quand même du ventre, là. Fait que lui, il a saigné, puis ça l'a fait gonfler. Oh. Ça l'a fait vraiment un saignement au niveau du pénis avec l'apparence, quasiment, ça peut devenir quasiment comme une aubergine, là, avec le saignement puis l'hématome autour, là. Donc, ça peut nuire à la guérison, on va avoir une cicatrice moins belle.
Il y en a qui passent par là, juste une rupture de frein, là.
Ah, parle-moi pas
ça
de ça.
Ça saigne, ça, là?
Ça, ouais. Je trouve que là, ça, c'est...
Ça,
c'est moins le fun.
La pression dans le piton.
Oui, ça peut saigner. Ouais. Il y a des vaisseaux beaucoup au niveau du frein, effectivement.
Ouais. Autre sujet qu'on voulait parler, puis ça, c'est vraiment tabou chez les hommes, parce que au-delà de la longueur, là, que les gars parlent beaucoup...
Arrêtez d'être complexé, là.
Mais tu sais, quand ça fonctionne plus. Ouais. Quand on a une dysfonction au niveau de l'érection, là aussi, ça peut être...
Mais il y en a qui ont l'érection. Mais qui n'arrivent pas à avoir une éjaculation. Il y a différentes problématiques au niveau de la...
Ben, c'est ça. Ben, il y a le problème de dysfonction érectile, donc qu'on a du trouble à avoir une érection satisfaisante pour la relation sexuelle. Puis il y a le trouble de manque de sensation, qui est souvent un heureux problème là, d'être obligé de retarder l'éjaculation puis l'orgasme parce qu'on n'est pas capable d'atteindre l'orgasme. Je dirais que ça arrive là, que les gens viennent consulter pour ça. C'est plus souvent l'inverse, là, l'éjaculation précoce. Qu'on avait parlé là, avec Jordan il y a 2 semaines, qui est un sujet qui est peut-être plus tannant là, pour les patients. Mais la dysfonction érectile, oui, c'est un sujet très fréquent, qui est un sujet de consultation en clinique là, beaucoup. Ce qui cause beaucoup d'anxiété et de gêne là, pour les patients, parce que c'est un sujet que le monde ne se parle pas, contrairement à d'autres maladies, là, pierre aux reins, même cancer, haute pression, les gens n'ont pas de problème à en parler. Mais la dysfonction érectile, les gens gardent ça pour eux, puis c'est tabou. Puis des fois, ils ne sont pas au courant qu'il y a plein de traitements de disponibles. Bien, tu sais, le monde connaît là, le Viagra, Cialis, là, avec le Viagra, avec l'annonce là, qui avait fait beaucoup d'éclat dans le temps.
C'est au moment, je veux dire, c'est anecdotique dans le sens... Oui, c'est ça. Parce qu'on veut l'utiliser, mettons,
sur le
aujourd'hui.
Coup, c'est sûr que tu sais les médicaments, c'est plus comme une béquille. Là, ça va aider à augmenter les chances d'avoir une érection lorsqu'on est stimulé. Donc, il peut y avoir le Viagra ou le Cialis. Le Viagra, on peut le prendre au besoin. Donc, on le prend 1 heure ou 2 avant la relation. Le Cialis, qui est comme une alternative au Viagra, lui, on peut même prendre une petite dose à chaque jour. Donc, il y a une version là, que c'est une petite dose à chaque jour qu'on prend comme n'importe quel médicament. Donc, on n'a pas besoin de stresser de prendre la pilule avant la relation.
Ça ne veut pas dire que c'est toujours en érection. Là.
Non, c'est que ça augmente la chance d'avoir une érection quand on est stimulé. Là. C'est ça. Bon point, okay, Mélanie. Ouais, on n'est pas tout le temps en érection non-stop. Là.
L'espèce de mythe de...
Toujours prêt!
12 heures de temps. Là.
Mais ce qui est le fun, c'est que depuis les dernières années, on a développé des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer les érections de façon naturel pour essayer de réhabiliter le pénis des thérapies régénératives qu'on appelle. Là. Précédemment, on faisait un combo plasma riche en plaquettes et ondes de choc, mais plus récemment, il y a des nouvelles technologies qui sont sorties, qui sont super intéressantes avec de la radiofréquence qui s'appelle APEX radiofréquence, APEX, là, APEX comme sommet. Là. Fait que ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle technologie qui est sortie là, depuis 3 ou 4 ans aux États-Unis puis que c'est très populaire. C'est basé sur la radiofréquence. La radiofréquence, là, c'est utilisé là, depuis longtemps là, pour traiter le cancer du rein, le cancer du foie, depuis des dizaines d'années. C'est utilisé en esthétique pour la qualité de la peau aussi, là, pour les femmes. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu. Puis là, on applique au pénis pour les érections. Puis pour la radiofréquence, là, c'est un traitement par semaine pour 6 semaines qu'on fait. On a une machine spéciale à radiofréquence. C'est avec une sonde qu'on va aller appliquer la sonde vraiment au niveau du pénis. Puis le but, c'est de chauffer les cellules à 42 degrés au lieu de 36.
C'est comme mettre au micro-ondes, là.
C'est un petit peu ça. Là. Mais avec des radiofréquences, on va aller chauffer un petit peu la cellule. Puis en faisant ça, ça va l'aider à se régénérer.
Ouais.
Donc, ça va régénérer une nouvelle cellule qui est plus jeune, plus en forme, plus en santé. Puis ça va cibler, pour le pénis, ça va cibler surtout les vaisseaux pour améliorer le flot sanguin. puis le collagène pour que les érections soient plus rigides. Fait que ça, c'est intéressant. Le point, c'est qu'il y a des techniques qui sont disponibles qui peuvent aider à améliorer les érections sans être dépendant à des béquilles, si on veut, comme les médicaments.
Donc, quelqu'un qui arrive à avoir une érection, mais qui n'arrive pas à avoir d'orgasme, mais là, avec ces traitements-là, il pourrait avoir plus de sensibilité et donc arriver...
L'apex radiofréquence, c'est principalement pour la dysfonction érectile. Pour le manque de sensation, ben, on peut faire l'apex au niveau du gland aussi, parce que là, ça va être plus le gland qu'on va cibler là, pour les sensations. On peut faire du PRP aussi, du plasma riche en plaquettes spécifiquement pour le gland. Donc, pour les gens qui ont plus de difficultés à atteindre l'orgasme, ça va être vraiment le gland qu'on va cibler le plus que tout le pénis au complet. Là.
OK.
Il suffit d'en parler, hein, et de pas être gêné, ça peut arriver. Puis,
ben oui.
Mais oui, mais non, il faut arrêter de... Il n'y a pas de sujet tabou, là, en fait.
Non, non, mais je sais qu'en tant que gars, on a tout le temps de la misère. Là,
je sais bien, vous êtes complexé.
Ben oui, c'est la vie.
C'est sûr que dans la chambre de hockey, la dysfonction érectile, t'es pas la vedette quand t'en parles. Là.
C'est sûr que non. non, ni autour d'une bière à cage au sport, comme je disais tantôt. Docteur Louis-Olivier Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, j'imagine qu'on aura l'occasion de te réentendre dans le retour de Radio X prochainement.
Ben, moi, ça me fait plaisir de revenir. Merci de l'invitation.
Les gens peuvent te trouver sur les réseaux, hein, s'ils veulent.
Oui, c'est ça, Louis-Olivier Gagnon, là, c'est sur Internet, là, vous tapez Clinique Marois ou par téléphone 1-844-URO-ALLO, U-R-O-ALLO. Donc, plein de façons de nous rejoindre. Je pense qu'on est sur l'intelligence artificielle aussi, donc gênez-vous pas, on est facile à rejoindre.
Merci beaucoup. Et ben c'est ça, déjeunez-vous les boys.
Oui.
Il est 17h07, vous êtes dans le retour de Radio X, bougez pas.
Le retour de Radio X. Radio X.